Association ou un collectif d'habitants et d'habitantes et vous souhaitez mettre en œuvre une initiative autour de l'alimentation durable sur le territoire du Pays des Châteaux. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, le Bocal accompagne les citoyens pour structurer leurs projets, identifier des partenaires et construire leur budget pour faciliter la recherche de financement. Des idées ? Le Bocal, c'est de l'accompagnement et un soutien financier pour les réaliser. Dispositif créé par le Conseil de l'alimentation du projet alimentaire territorial du Pays des Châteaux, le Bocal permet d'accompagner les porteurs d'initiatives financièrement et humainement. Nous en parlons dans notre chose commune de ce jour avec nos trois invités, Oriane Marcadet, chargée de mission alimentation pour le projet alimentaire territorial, Catherine Delpy, bénévole de la MAP des paniers vinoliens et membre du Conseil local de l'alimentation, et Nicolas Orgelet, l'élu référent du projet alimentaire territorial. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Studio ZEF, bienvenue dans la chose commune. Pour ce nouvel épisode, nous parlons d'un dispositif pour ceux qui souhaiteraient mettre en œuvre une initiative autour de l'alimentation durable sur le territoire du Blésois avec le Pays des Châteaux. En studio aujourd'hui, donc, pour parler de ce sujet, Oriane Marcadet, chargée de mission alimentation pour le Pays des Châteaux, Catherine Delpy, membre du CLA, dont on parlera, on expliquera ce que c'est, et bénévole à la MAP de Vineuil, et Nicolas Orgelet, élu référent au projet alimentaire territorial. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, pour présenter le Bocal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de strates différentes. On va peut-être représenter la strate principale du projet. Le dispositif, il est porté par le Pays des Châteaux. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ?
Le Pays des Châteaux, c'est la collaboration de trois établissements publics de coopération intercommunale. Donc, en gros, l'agglomération de Blois, 43 communes qui travaillent ensemble sur des compétences communes. La communauté de communes Beauce-Val-de-Loire et la communauté de communes Grand-Chambord. Pour faire plus simple, c'est 89 communes qui vont de Chaumont-sur-Loire à Mer, sur l'axe de la Loire, et au nord, ça concerne la Beauce, la vallée de la Loire et un morceau de la Sologne. C'est 89 communes et travaillent ensemble sur des grandes politiques publiques, dont la politique alimentaire.
La politique alimentaire. Oriane, vous êtes chargée de mission au Pays des Châteaux pour le projet alimentation territoriale.
C'est ça.
En quoi consiste votre travail et quelles sont vos missions principales ?
Donc nous, le projet alimentaire territorial, il a été mis en place en 2018 avec une co-concertation avec tous les acteurs du territoire, donc qui travaillent de près et de loin sur les sujets d'agriculture et d'alimentation. Et en fait, on a construit collectivement un plan d'action, voilà, pour mettre en place des actions qui vont œuvrer en faveur de la transition agricole et alimentaire du territoire, donc en faveur de la transition agroécologique du territoire. On a une cinquantaine de fiches actions qui ont été mises en place et moi, mon travail, c'est de mettre en place ces différentes actions avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Et le projet alimentation territoriale, c'est quelque chose qui peut se faire partout en France. Comment ça se crée ?
Les projets alimentaires territoriaux, ils ont été définis dans une loi en 2017. Il y en a plusieurs en France, il y en a de nombreux en France qui peuvent être portés par différentes structures, souvent par des collectivités territoriales, donc comme nous, des syndicats mixtes de pays, mais ça peut également être porté par des PNR, par des agglomérations, etc. Voilà, tous les territoires qui souhaitent mettre en œuvre une politique agricole et alimentaire territoriale.
Et à l'intérieur de ce projet alimentaire territorial, on a le Conseil local de l'alimentation, dont vous faites partie tous les trois. C'est un conseil à l'intérieur de ce projet alimentaire territorial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre commission ? Je ne sais pas comment on les appelle.
C'est pas une commission. En fait, un projet alimentaire territorial, dans la loi, le but, normalement, c'est de relocaliser l'alimentation à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est la première priorité fixée dans la loi. Nous, on s'est dit, quand on pense alimentation, il faut qu'on pense l'ensemble des acteurs de l'alimentation, donc c'est-à-dire les gens des AMAP, en l'occurrence, par exemple, les citoyens, mangeurs impliqués, les agriculteurs, les gens qui font de la logistique, la grande distribution, mais aussi le social, par exemple l'aide alimentaire qui va donner à manger aux plus démunis, l'action sociale pour comment on fait en sorte d'avoir de l'alimentation de qualité à destination de tous, les associations environnementalistes aussi, comment on fait une agriculture qui préserve aussi nos ressources en eau, nos sols, etc. Donc en gros se dire, arrêtez de prendre l'alimentation que sous l'angle de l'agriculture, mais essayez de le penser dans l'ensemble de ses facettes. Et pour ça, on s'est dit que le mieux c'était d'en faire un projet alimentaire territorial le plus démocratique possible. Donc on a mis autour de la table 250 acteurs de l'alimentation, des maires ruraux qui vont par exemple devoir gérer leur cantine au quotidien, et l'ensemble des acteurs que je vous ai cités, qui représentent plein de manières de penser l'alimentation différente. Et c'est eux qui ont construit la politique de l'agglomération pour une alimentation durable, rémunératrice, résiliente, relocalisée. Et c'est eux qui nous ont proposé plein d'actions par rapport à leurs besoins de terrain. Et nous, on s'est dit, la collectivité, elle va se mettre à disposition des citoyens qui auront écrit une feuille de route politique. On a laissé les citoyens écrire la feuille de route politique et on s'est dit, et maintenant, on la met en œuvre. Et Oriane, elle nous aide à mettre en œuvre tout ça.
Et Catherine, vous faites partie de ces 250 personnes, citoyens, citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans cette aventure?
Alors oui, c'est une aventure, effectivement. Moi, j'ai dans un premier temps adhéré en tant que bénévole dans une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et puis, comme on fait partie d'une AMAP, on fait aussi partie du CLA. Et donc j'ai assisté aux premières réunions organisées par Oriane, ça m'a bien plu. Et puis et là, elle nous présentait donc toutes les actions qui étaient mises en place. Et quand il y a eu le projet de mettre en place donc le bocal, qui ne s'appelait pas encore le bocal, elle a constitué un groupe de bénévoles, de volontaires pour travailler sur ce projet.
Voilà. Combien d'y avait de personnes sur le dispositif?
Alors il y avait il y avait un roulement, on peut dire qu'on était entre 10 et 15 à alterner. On n'était pas systématiquement tous au complet à chaque réunion. Mais l'avantage de cette réunion, elle était riche parce que justement, on venait d'horizons divers et les échanges étaient riches. Donc ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu de participer à cet élan de communication et d'action. On a tous le même but, en fait. On a tous un point commun qui est l'alimentation. Voilà.
Qu'est-ce qui a mené à la création du dispositif du bocal et quelles ont été les différentes étapes du processus de création? Et dans les discussions, comment on en est venu à se dire on va créer cet appel à projet?
Je dis pourquoi et tu dis comment?
Oui.
Ok. Dans le conseil local d'alimentation, il y a eu trois temps. Quand je suis arrivé, les citoyens, ils avaient construit la feuille de route politique. Ça, c'était premier temps. Tous ensemble, on écrit ce qu'on veut faire pour l'alimentation.
Et quelle était-elle, cette feuille de route et cette politique?
Voilà.
En quelques...
par exemple, pour re-rendre des parcelles accessibles à des nouveaux agriculteurs, on a travaillé sur comment faire du lien entre les fonciers disponibles, qui sont parfois connus par les maires, des porteurs de projets qui sont connus par des réseaux paysans et des réseaux agricoles. La SAFER qui sait faire de la préemption, et puis un asso environnemental qui a regardé si parfois il fallait qu'on accepte de laisser en friche, par exemple. Ça, c'est une action. Et à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant dans le conseil local d'alimentation, c'est qu'à chaque fois, on fait travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et ça fait des actions originales parce que c'est porté par des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Dans les cantines, par exemple, il y a beaucoup de petites communes qui se disaient « Nous, on veut bien du bio, du local et tout, mais on est trop peu nombreux, on ne sait pas faire. » Et donc, on a fait un appel à manifestation. Donc ça, c'est le conseil local d'alimentation qui nous a dit « On a besoin d'un accompagnement. » Et nous, on l'a mis en place. Donc, on a mis en place un accompagnement où on forme à la commande publique, comme on fait des lots pour acheter local. On forme les cuisiniers, comme on fait des produits bio, comme on fait des menus végétariens qui sont mangés par les enfants. On sensibilise aussi les enfants au changement de goût, etc. Et puis, on lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que moins de gaspillage, c'est plus d'argent pour acheter des produits de qualité, par exemple. C'est deux actions parmi tout un panel d'actions.
On
pourrait prendre toutes les. Donc je ne fais pas plus loin. Et donc ça a été le premier temps, ça a été ils nous font remonter tous leurs besoins. On écrit ces 50 fiches actions par thématique. Le deuxième temps, quand j'arrive en début de mandat, avec Oriane, on met en œuvre toutes ces actions qui ont été vues par les citoyens. Mais quelque part, c'est nous qui commençons à les mettre en œuvre. Et donc les citoyens, ils sont plus là qu'en suivi. On s'est dit non, il y a un truc qui marche pas. Il faut aussi qu'on leur donne les moyens de faire directement pour qu'ils soient encore plus impliqués et qu'ils aient envie de faire. Que les politiques, pour aller encore plus loin dans la démocratie, acceptent de se séparer d'un bout de leur pouvoir en donnant l'argent aux citoyens. C'est eux qui vont déterminer à qui ils le donnent et comment. Et ça, ça a été le troisième temps, l'apparition du bocal, où on a travaillé avec eux sur si on vous donne un budget, c'est pour faire quoi, avec quelles règles. Et quelque part, c'est eux qui deviennent les jurys de à qui ils le donnent. C'est eux qui... Et c'est plus nous élus qui disons ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est directement les citoyens. Qu'est-ce qu'on finance? Et peut-être pas que ce qu'on finance, que d'ailleurs ce qu'on est ressorti, c'est aussi on veut pas que financer, on veut aussi accompagner. Accompagner les gens qui savent pas apporter des initiatives pour vraiment que ça soit accessible à tous. Peut-être, Corianne, tu peux expliquer comment se sont passés
le bocal.
Oui, tout à fait. Moi, je vais revenir dans un premier temps un petit peu sur l'historique de ce bocal. Il faut savoir que nous, le Pays des Châteaux, on est accompagné par la fondation Daniel et Lina Carasso et AgroParisTech dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Tetra. On a été accompagné donc pendant 4 ans. Ça se termine fin d'année. Et dans ce cadre de ce programme, on a justement obtenu une subvention pour financer et accompagner des initiatives portées par des citoyens sur notre territoire autour de l'alimentation. Donc il y a vraiment cette volonté d'accompagner les citoyens sur l'émergence d'initiatives sur le territoire. Et donc les élus du Pays des Châteaux ont décidé de travailler avec le conseil local de l'alimentation sur ce projet-là. On a été accompagnés pendant plusieurs mois par un bureau d'études qui s'appelle Extracité, qui nous a aidé un petit peu à nous donner des pistes sur comment on pouvait faire. Et concrètement, comment ça s'est passé? Donc nous, le conseil local de l'alimentation, on le réunit 2 fois par an. Lors d'un premier conseil local d'alimentation, là, en janvier 2024, on a proposé aux membres du CLA qui étaient volontaires de s'impliquer au sein d'un groupe de travail pour travailler un petit peu sur ce dispositif. On n'avait vraiment que les grandes lignes, un petit peu la volonté des élus du Pays des Châteaux, les objectifs, etc. Et après, il y avait carte blanche. On s'est réunis 3 à 4 fois dans différents ateliers avec donc les membres volontaires du CLA. Et on a abouti donc à la création de ce bocal, qui a été inauguré le 17 septembre lors de notre dernier conseil local de l'alimentation.
Ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien et ce que vous avez dit, c'est que le projet est créé par les citoyens de façon assez démocratique. Et donc maintenant, on va parler du projet en lui-même, à qui il s'adresse.
Alors, le projet, enfin le bocal, à qui il s'adresse? Il s'adresse aux citoyens. En association, aux personnes morales qui ont un projet, une idée, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, soit c'est parce qu'ils ont un manque, enfin, ils savent, mais il leur manque des moyens, ou soit c'est juste une idée et ils ne savent pas comment la mettre en œuvre. Voilà. Donc, ils viennent à nos permanences. On a une fiche d'identité, en fait, là où ils déclinent qui ils sont et quels sont leurs projets. Et puis, nous, on récolte tout ça. Et après, on présente ça au CLA. Et on dira si oui ou non ce projet est viable et comment on peut l'accompagner au mieux. Et puis, on aura identifié des référents qui pourront accompagner donc, le projet du début jusqu'à la fin. Voilà. En revanche, ce qu'on demandera, s'il aboutit, c'est que les personnes qui auront accédé au bocal puissent faire participer les autres et présenter en fait, ce qu'ils ont pu faire grâce au bocal. Mettre en place grâce au bocal.
Par contre, moi, je voulais compléter ce que tu disais, Catherine. Il y avait vraiment cette volonté de pouvoir proposer un accompagnement à la fois technique et financier auprès d'un public qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de répondre à certains appels à projets qui peuvent être assez lourds et prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'était vraiment une volonté de la part des membres du Conseil local d'alimentation de créer un dispositif simple et accessible à tous.
Mmh. Ce n'est pas qu'un financement, c'est aussi
non.
un accompagnement.
Voilà, c'est ce que j'allais dire après. Oui, effectivement, c'est pas que financement, ça peut être un accompagnement technique, comme on dit.
C'est des citoyens qui deviennent experts, qui accompagnent d'autres citoyens qui ont envie de monter des choses. Donc c'est vraiment une sorte de parrainage de citoyens à citoyens. Et les budgets, en gros, on a une enveloppe de 30 000 euros. Donc ça fait, avec des projets maximum 5 000 euros pour réussir à en financer au moins 6, sans doute plus. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que en fait, on veut de l'innovation, pas dans le sens de la tech, etc. On veut que ça soit innovant, plus parce qu'on a des partenariats qu'on n'a pas l'habitude ou des publics, en effet, qui sont loin d'habitude de ce type de projet. Et d'ailleurs, les citoyens ont décidé que ça serait 1 à 4 hectos pour pouvoir remplir un appel à projet.
Candidater.
Pour candidater. Donc que ça soit vraiment très simple et qu'après, ça soit plus dans l'échange humain, qu'on comprenne comment est le projet.
Effectivement, comme c'est nous qui l'avons imaginé, on s'est dit, bon, on va aller au plus juste. Il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. Il faut qu'on puisse répondre facilement et rapidement aux questions et orienter correctement. Voilà. Et comme on était un groupe très homogène, hétérogène, on avait plein d'idées. On imaginait déjà quel type de questions on pouvait nous poser. Et on disait, bah, non, ça, ce n'est pas possible. Ça, au contraire, OK, on y va. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets qui pourraient être proposés, pour être plus concrets?
Alors moi, je sais qu'il y a une porteuse de projet qui m'a abordé la semaine dernière en me demandant quand est-ce que ça ouvrait. Donc, un exemple de projet dont je sais qu'il sera déposé. Après, je ne sais pas s'il sera retenu. C'est par exemple changer d'air. Non, comment ça s'appelle? Libre. Non. Mince. Il y a une fédération dans les quartiers nord qui s'appelle Libre comme l'air qui donne des baby box pour les mamans qui viennent d'avoir un bébé et ils voudraient travailler avec Biocentre pour pouvoir offrir des produits bio locaux de qualité pour ces jeunes mamans afin qu'elles puissent nourrir leurs bébés avec des produits de qualité. Ben, ça par exemple c'est assez original, c'est une proposition qui peut être portée. Voilà.
Nous, on a évoqué l'achat d'un réfrigérateur. On a évoqué pour une association qui récupère de l'alimentation et qui n'avait pas les moyens de conserver. Voilà, donc ça pouvait être ça. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre idée?
Il y avait d'accompagner la structuration de groupements de commandes, par exemple, à l'échelle d'une commune. Ouais. Il y avait vraiment cette volonté, en fait, de ne pas non plus préciser trop de projets pour laisser un petit peu aussi libre cours aux différentes initiatives qu'il pouvait y avoir sur le territoire. L'unique contrainte, entre guillemets, c'est qu'il fallait que ça rentre dans les enjeux du projet alimentaire territorial.
Donc, l'égalité d'accès à une alimentation de qualité, le soutien à une agriculture locale et de qualité, etc., etc. Et il y avait aussi cette idée qu'après, dans la sélection, une envie que c'est peut-être des petites actions, mais qu'on sente qu'il peut y avoir un effet levier ou de sensibilisation mais pour le changement de système alimentaire dans le territoire. Voilà.
Est-ce qu'il y a des conditions à remplir, outre le fait d'être une personne morale, une association ou un collectif d'habitants?
Tu m'arrêtes si je me trompe. que l'initiative, le projet parte vraiment de zéro, qu'il n'est pas déjà investi, voilà, qu'on n'arrive pas après coup, voilà, qu'on ne soit pas que le complément pour le projet, que ce soit effectivement dans le projet de l'alimentation, qu'on soit sur le territoire, vraiment une personne morale ou une association.
Que ça bénéficie à un collectif.
Oui, que ce soit effectivement si possible reproductible. Et on ne financera pas, par exemple, des études.
Ni un poste,
voilà. Pas de...
C'est une action.
Oui. Ouais, une action concrète. C'est ça. Et qu'on ne soit pas un petit bout de financement dans un gros truc.
Voilà.
Mais on dit une personne morale parce que légalement, en fait, pour pouvoir reverser des fonds, il faut qu'il y ait une personne morale qui soit garante. Mais si, par exemple, des étudiants dans un lycée veulent travailler sur l'alimentation dans leur cantine, eux, ils ne sont pas assos, ils ne sont pas une personne morale, mais ils peuvent peut-être aller chercher une association ou ils peuvent peut-être aller chercher les responsables de leur lycée pour déposer le projet pour eux. C'est-à-dire qu'on autorise ça aussi, évidemment.
Quel est l'agenda à venir? Je crois que le 17 novembre, c'est la date limite pour candidater.
C'est ça. Le 19 novembre, on organise une réunion avec les membres du Conseil local d'alimentation pour justement présenter les différents projets qui nous seront parvenus et puis pouvoir les sélectionner et prioriser, voilà, ceux à accompagner. Ensuite, il y aura donc une première prise de contact entre les référents, les membres du CLA qui sont portés référents sur différents projets pour pouvoir construire, consolider ensemble le projet, identifier des partenaires du projet, potentiellement identifier des devis pour que courant janvier, début février, on puisse avoir une vision sur le budget prévisionnel s'il n'y en avait pas déjà là fin d'année des différentes initiatives et pouvoir attribuer les différentes subventions. Après, l'idée, c'est que ces projets puissent être mis en place courant 2025 et on fera un bilan et une valorisation de ces initiatives courant 2025 et fin 2025. Peut-être que moi, je voulais rajouter une petite précision. Il y avait aussi cette volonté que la subvention qui serait attribuée dans le cadre du bocal soit un effet levier et puisse permettre à des porteurs de projets d'aller rechercher d'autres cofinancements. Et au sein du Pays des Châteaux, donc nous sommes deux à travailler sur le projet alimentaire territorial. J'ai également une collègue et nous, on sera également présente en appui pour accompagner les porteurs de projets et les référents membres du Conseil local alimentation, justement à contacter de potentiels cofinanceurs ou faire du réseau, etc.
Et cet accompagnement, très concrètement, comment il se déroulera une fois que les projets seront validés ?
Nous, en tant que technicienne du Pays des Châteaux, on prendra régulièrement contact avec les référents. On essaiera aussi d'organiser des réunions collectives, hein, parce que l'idée, c'est aussi toujours super intéressant d'avoir des échanges entre porteurs de projets, entre référents. S'il y a des demandes de la part des référents des différents projets de monter en compétence sur différents sujets, on essaiera de pouvoir leur répondre à leurs questions, proposer des fois des petites formations, etc. Et puis, nous envisageons de réaliser une réunion avec différents potentiels cofinanceurs qu'on aura identifiés sur le territoire début janvier pour justement présenter les différentes initiatives et voir les compléments qui pourraient être apportés.
Et après, donc, il y avait un petit groupe de 10 qui ont travaillé sur le dispositif, maintenant c'est tout le Conseil local d'alimentation qui travaillera sur quel projet on valide ou pas. Et cette idée d'avoir une sorte de parrainage, c'est-à-dire que chaque projet aura dans le Conseil local de l'alimentation une personne référente qui dit « tiens, moi ça, ce sujet-là, je le connais bien ». Je suis prêt à donner un peu de temps pour eux, pour les aider bénévolement à réussir à aboutir.
Catherine, peut-être une question plus personnelle. Est-ce que c'était la première fois que vous vous lanciez dans une aventure comme ça
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça vous apporte en tant que citoyenne et habitante du territoire ?
Alors, habitante du territoire depuis peu. C'était donc d'autant plus intéressant pour moi de mieux connaître mon environnement, les acteurs locaux et puis cette approche de l'alimentation que, sincèrement, il y a 4 ans, je n'avais pas. Voilà, donc ça a été vraiment très, très riche d'enseignement. Et, enfin, c'est très riche d'enseignement parce que j'espère bien continuer un peu dans ce type de projet. Donc c'était vraiment très, très chouette. Vraiment, on était très bien accompagnés.
Et Oriane et Nicolas, en tant qu'élus et salariés pour une collectivité, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est déjà le cas, ce type de fonctionnement d'émulation citoyenne pour d'autres pans de politique locale ?
Oui. Ah. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que un conseil local d'alimentation, on est le seul projet alimentaire territorial en France qui a un conseil local d'alimentation qui s'appuie à ce point sur les citoyens. Et maintenant, on est les seuls en France à donner aux citoyens un budget pour qu'ils le gèrent par eux-mêmes. Donc déjà, c'est assez unique.
Quelle fierté.
Et on nous appelle souvent pour aller témoigner ici ou là. Donc il faut choisir pour aussi avoir le temps de juste travailler. Quoi. Et on l'imagine, par exemple sur l'énergie, je l'imaginais parce qu'on avait fait avec la région le projet LIFE dont j'avais témoigné ici, avec des citoyens tirés au sort qui avaient travaillé sur la transition énergétique et écologique. Et qui avait derrière monté plein d'associations, mais ils m'ont fait remonter que leur problème, c'est qu'ils auraient eu besoin justement d'un petit budget, ne serait-ce que pour communiquer au début sur l'association, même 1000 euros, mais juste au moment du lancement, finalement, que ça comptait beaucoup sur l'effet levier au moment où on se lance. Et donc, ça pourrait être une piste aujourd'hui, on a accompagné ces associations qui sont nées de cette initiative, un peu type convention citoyenne sur l'énergie qu'on a fait localement, qui a fait émerger 6-7 associations. À un moment donné, on va arrêter de les accompagner pour qu'elles deviennent indépendantes. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, pourquoi pas un petit budget citoyen qui marque aussi le lancement de l'autonomisation, de l'autonomie totale de toutes ces assos. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu c'est la réflexion qu'on a là qui m'y fait penser, quoi.
En fait, nous, dans le cadre du PAT, on travaille déjà sur nos différentes actions avec l'ensemble des membres du Conseil local d'alimentation qui souhaitent s'impliquer sur différentes actions. Donc là, vraiment, la mise en place de ce bocal, ça permet de toucher les habitants, les citoyens, de proposer un accompagnement technique et financier plus spécifique, mais autour de tous les sujets en fait, qu'on va travailler dans le cadre du PAT. Donc moi, mon envie, c'est plutôt qu'on arrive à pérenniser en fait, ce dispositif si ça répond bien aux besoins du territoire, les différentes années.
Très bien. Eh bien, merci à tous les trois. Pour terminer, on peut peut-être rappeler les grandes lignes du bocal. Qui peut candidater ? Pourquoi ? Pour quelle valeur ? Et jusqu'à quand ?
Alors, jusqu'à quand ? Jusqu'à fin novembre.
Jusqu'au 17 novembre.
C'est ça, jusqu'au 17 novembre. Les associations peuvent candidater. Des groupements de personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la personne morale. Pour tout type de projet, dans le domaine de l'alimentation, bien évidemment. Ça sera un accompagnement financier ou technique, hein, avec le savoir-faire des uns et des autres. On n'arrive pas après la bataille. Hein, le projet qu'on nous apporte, qu'on nous présente, il est vraiment à l'état de projet ou d'idée, tout simplement, l'accompagnement. On peut financièrement aller jusqu'à 5000 euros. Voilà. Et puis.
Et on doit être inscrit dans les valeurs du projet alimentaire, c'est-à-dire une alimentation saine, durable et locale pour accompagner la transition vers un modèle agricole durable.
Durable.
Et voilà. Pour terminer, s'il y a la moindre question, renseignement sur ce dispositif, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler au Pays des Châteaux, parce qu'on pourra essayer de. On essaiera de trouver une réponse de toute façon aux différentes questions.
Et il y a beaucoup d'informations sur votre site web, peut-être qu'on peut le rappeler.
Oui, tout à fait. Toutes les informations sur ce dispositif sont sur notre site internet. Il y a une vidéo explicative qui résume un petit peu ce qu'est ce dispositif. On a rédigé également un guide qui là vraiment précise sur plusieurs pages en quoi consiste ce dispositif, qui peut y répondre, quel type de projet, etc. avec nos coordonnées. Et il y a également, on retrouve la fiche de renseignement, donc juste un recto A4 à nous renvoyer s'il y a une initiative par mail. Et également nos coordonnées et les dates des permanences qui sont début octobre.
Eh bien, merci à tous les trois. Cette émission est réécoutable en podcast sur le site de Studio Zef dans le créneau de la chose commune. Bonne journée et puis à bientôt sur les ondes de Studio Zef.
Merci pour l'invitation.
Merci, au revoir.